Tout comme le Mali qui fête actuellement sa victoire en ayant mis dehors les troupes d'occupation étrangères de son territoire, l'Éthiopie fête également sa victoire sur l'Occident. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a officiellement lancé ce dimanche 20 février la production d'électricité du grand et très controversé barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu, un barrage hydroélectrique source de tensions régionales depuis quelques années. Depuis le lancement de ce projet, donc en 2011, les États-Unis à travers l'Égypte et le Soudan font front commun contre l'Éthiopie. La raison évoquée, c'est que ces deux pays situés en aval du fleuve, donc le Nil, est une source d'approvisionnement vitale, fournissant par exemple 97% des besoins en eau de l'Égypte. Si l'Éthiopie devient donc maîtresse du débit du fleuve, Égypte et Soudan redoutent de manquer d'eau et de perdre des surfaces cultivables. Pour limiter leur dépendance, les deux États souhaitent un accord de contrôle sur l'utilisation du barrage, ce que l'Éthiopie considère comme une atteinte à sa souveraineté. Les discussions entamées sous l'égide de l'Union africaine n'ont pas permis de trouver un compromis dans l'attente d'un accord. Khartoum et le Caire avaient demandé à Addis Abeba de mettre en pause le remplissage du barrage. Mais en juillet dernier, l'Éthiopie a annoncé la fin d'une nouvelle étape de processus permettant de mettre en service deux des 13 turbines qui vont produire environ 345 MW en attendant la mise en marche des autres, donc qui vont fournir à terme 5000 MW. Ce qui va considérablement augmenter de manière significative la fourniture d'électricité dans ce pays. Cette cérémonie, donc dira Abiy Ahmed, marque un tournant dans l'histoire de l'Éthiopie dans sa quête de modernisation et d'autonomisation énergétique. Ce défi a été relevé donc grâce au sens patriotique des Éthiopiens qui ont sacrifié un mois de leur salaire pour contribuer au financement de cette infrastructure qui s'élève à 4,2 milliards de dollars. Bel exemple de patriotisme et du sens élevé de la nation. L'Éthiopie a démontré aujourd'hui qu'elle ne prive pas les populations des pays riverains de l'accès à l'eau, a-t-il déclaré. L'Éthiopie donc n'a pas l'intention de faire du mal à qui que ce soit, a-t-il ajouté. En effet, l'autonomisation donc énergétique est bien ce qui manque en Afrique pour lancer notamment son secteur industriel. C'est ce que bien des puissances de ce monde redoutent le plus, c'est que donc les pays africains se lancent dans l'autonomisation énergétique, car cela sent le début de la mise à la porte des multinationales étrangères. Avant tout, donc, il faut que l'Afrique se mette en phase au niveau énergétique. Le système est tel actuellement que, par exemple, la France, donc, à une lampe sur trois, est allumée grâce à l'uranium du Niger. Alors qu'au Niger même, la population manque d'électricité. C'est une situation qui ne peut plus durer. Ceci est un exemple parmi tant d'autres. L'Éthiopie s'est battue pour récupérer ses droits et ce barrage de la Renaissance est également un symbole d'indépendance et on voit qu'en ce moment, l'Afrique veut prendre entièrement son destin en main. Au Mali, le départ des troupes militaires occidentales d'occupation est entré dans l'histoire du pays et même de l'Afrique. Mais le combat continue. Alors que l'Union économique et monétaire ouest-africaine avait participé aux sanctions de la CEDEAO contre le Mali en janvier et a mis en œuvre donc ces dispositions, le Mali a décidé de porter plainte contre l'organisation pour violation des textes. Le gouvernement du Mali avait condamné et qualifié les sanctions prises conjointement par la CEDEAO et l'UMOA d'illégales. Ces sanctions consistaient en effet, un embargo commercial et le gel des avoirs maliens dans les banques centrales et commerciales dans le pays membre de l'UMOA. Après avoir sorti un communiqué pour dénoncer la mise en application des sanctions par l'UMOA, soulignant le fait que cela viole les textes de l'organisation, Bamako a décidé de déposer une plainte donc contre l'UMOA. À la demande du gouvernement de la République du Mali, un collectif de 6 avocats maliens conduit par maître Mustapha Cissé, donc avocat au barreau du Mali et bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali, a saisi la Cour de justice de l'UMOA de deux recours contre les décisions issues de la conférence des chefs d'État et de gouvernement donc de l'UMOA en date du 9 janvier 2022 portant sanctions contre l'État du Mali, comme l'a indiqué un communiqué du bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali. Le premier recours tend à obtenir de la Cour de justice de l'UEMOA, donc 6 à Ouagadougou, Burkina Faso, l'annulation des décisions susvisées. Le deuxième recours tend à demander la suspension de l'exécution des sanctions eu égard aux effets gravement préjudiciables à l'État du Mali, aux populations maliennes et africaines vivant au Mali, ajoute le document. Les deux recours ont d'ores et déjà été formellement enregistrés au greffe de la Cour de justice de l'UEMOA le 15 février. Tous évoquent l'illégalité absolue des sanctions au regard des textes et l'objectif donc de l'UEMOA, assurent les avocats maliens. Il va sans dire qu'un nouveau bras de fer vient d'être lancé entre l'organisation et le Mali, alors même qu'une délégation de la CEDEAO et de l'Union africaine est en ce moment à Bamako pour tenter donc de résoudre certains problèmes et rétablir surtout le dialogue. Les sanctions ont été imposées au Mali pour le non-respect de la charte de la transition en reportant des élections prévues en février vers une date allant jusqu'à plusieurs années. C'est en tout cas ce qu'annoncent les médias. La CEDEAO n'a pas été de cet avis et a imposé de lourdes sanctions donc contre le pays en appelant les autorités donc de transition à proposer une date acceptable selon eux pour l'organisation d'élections, alors que c'est suite à des concertations avec tous les représentants de la société civile et des membres du gouvernement que le gouvernement de transition a pris cette décision donc de rester en place en 4 ou 5 années supplémentaires. Ce que la CEDEAO et la communauté occidentale n'a aucunement tenu compte, évidemment. Sous la pression de l'ancienne puissance coloniale, à savoir la France, la CEDEAO et l'UEMOA ont sanctionné le Mali en infligeant, donc le 9 janvier, de lourdes sanctions économiques et diplomatiques au Mali, avec un embargo commercial et financier et la fermeture des frontières. Ce qui n'a pourtant pas du tout isolé le Mali. Et c'est pourquoi ce régime de sanctions donc, est considéré comme un échec total. Ceci a bel et bien ouvert de nombreuses portes au Mali. De plus, au sein même de la CEDEAO, donc de nombreux acteurs n'ont pourtant pas laissé tomber le Mali pour autant. Pour n'évoquer que cet exemple, une délégation donc de la société civile sénégalaise a été reçue cette semaine en audience par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Malgré les sanctions politico-économiques de la CEDEAO, les sociétés civiles ouest-africaines semblent tout de même soutenir les autorités de la transition au Mali. La partie sénégalaise, après avoir organisé donc une grande mobilisation le 28 janvier dernier à Dakar, a décidé de renforcer son soutien en effectuant un déplacement dans la capitale malienne et recevant donc ses hôtes dans une rencontre élargie à certains membres de son gouvernement. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a remercié en premier l'esprit de solidarité et la mobilisation de soutien réussie à Dakar. Et pour le chef du gouvernement de transition, la CEDEAO veut ramener tout le problème du Mali simplement à une question électoraliste. Par ailleurs, il a évoqué avec les Sénégalais la mise en place par le gouvernement d'un mécanisme de concertation pour soutenir la dynamique de la poursuite du dialogue avec la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale sur des questions concernant la conduite de la transition. Et si on n'a pas d'accord avec la CEDEAO, nous allons rentrer en résistance, a-t-il déclaré. En d'autres termes, ce n'est pas le Mali qui est en train de jouer sa vie, mais plutôt la CEDEAO et l'UEMOA. Après s'être fait littéralement éjecter du Mali, la France et ses alliés ont annoncé vouloir se redéployer au Niger pour pouvoir rester dans le Sahel. Mais le problème, c'est que de nouveau, les Occidentaux n'ont pas encore vraiment compris que les populations ont récupéré leur souveraineté et que c'est à eux de décider. La décision de redéployer Barkhane et Takuba au Niger suscite déjà des réactions de rejet au Niger. Aussi bien du côté de la classe politique que de la société civile nigérienne, des voix s'élèvent pour rejeter l'arrivée de ces militaires qui quitteront le Mali. Saluant le peuple malien et ses autorités de transition pour la vigilance et le courage avec lequel ils ont fait échec au projet de recolonisation de l'espace sahélien par la France, le parti politique Union des Forces Populaires pour la Démocratie et le Progrès donc, a dans une déclaration publié vendredi et appelé donc l'ensemble des forces politiques et sociales à une convergence de lutte pour faire barrage à ce projet de recolonisation à partir du Niger de l'espace ouest africain. Dans un communiqué donc publié vendredi, le mouvement de la société civile Tournons la page Niger a déclaré avoir appris avec sidération et stupéfaction la décision des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union européenne du jeudi donc 17 février annonçant le redéploiement de Takuba et Barkhane au Niger. Tout en condamnant avec fermeté un accord colonialiste, le mouvement a exhorté les autorités nigériennes à se désolidariser sans condition de cet accord qui n'est pas voulu par le Niger et son peuple. Jeudi, lors d'une conférence de presse à l'issue d'un dîner avec des chefs d'État africains, dont le Nigérian Mohamed Bazoum, le président français Emmanuel Macron avait déclaré qu'après le retrait du Mali, Barkhane et Takuba seront redéployés au Niger. Avec l'accord des autorités nigériennes, des éléments européens seront repositionnés aux côtés des forces armées nigériennes dans la région frontalière du Mali. Le président nigérian Mohamed Bazoum a confirmé l'information, soulignant que notre objectif est que notre frontière avec le Mali soit sécurisée. Mais selon le ministre nigérien des Affaires étrangères, Assoumi Massoudou, le président de la République, bien qu'il n'ait pas d'obligation de saisir le Parlement, a demandé au Premier ministre d'engager la responsabilité du gouvernement au Parlement sur la question de ce redéploiement. Donc, il y aura un débat parlementaire qui sera donc sanctionné par un vote. Et le gouvernement engagera donc sa responsabilité. Voilà ce qu'on fera et on verra, affirme-t-il. La représentation nationale, c'est elle qui représente donc le peuple nigérien. Nous sommes un pays démocratique où l'exercice démocratique se fera dans l'enceinte privilégiée pour l'expression démocratique, l'expression des représentants du peuple. Et maintenant, les gens verront ce que pense le peuple nigérian, ce qu'ils en pensent. Les pays voisins du Mali donc commencent également à émettre des doutes quant à un déploiement des troupes militaires d'occupation sur leur territoire. La France a annoncé déjà avec sa certitude légendaire qu'elle se redéploiera déjà avec ses alliés donc au Niger et peut-être même au Burkina Faso, pendant que les États-Unis redéploient l'Africom en Côte d'Ivoire, les Allemands peut-être au Ghana. Bref, la France veut un redéploiement au Niger et au Burkina Faso histoire d'encercler le Mali et elle vise également un déploiement de ses troupes au Togo et au Bénin pour continuer le plan de recolonisation donc de toute cette partie d'Afrique et surtout du golfe de Guinée. En laissant les Occidentaux se déployer sans aucune limite en Afrique de l'Ouest, il est clair que le plan de recolonisation n'est toujours pas entièrement tombé à l'eau. Le Mali a déjà, lui seul, gravement entravé ce plan. Maintenant, il faut que les autres pays le suivent sans croire la propagande occidentale qui prétend que le Mali, entre autres, fait partie des pays isolés. Ce n'est absolument pas vrai. Comme le dit le Premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga, rien que dans le secteur de la défense, le Mali a plusieurs partenaires de taille, mais les médias occidentaux ne parlent que de la Russie. Les Occidentaux ne sont pas le centre du monde et il n'y a pas que sur cette terre, et ça, beaucoup de pays africains l'ont compris.
Cette question de présence de troupes étrangères dans notre pays, ben, elle va être réglée facilement, oui. Elle va être soumise au Parlement, et puis ça sera réglé.
La décision de redéployer les forces françaises Barkhane et celle européenne Takuba au Niger suscite déjà des réactions de rejet dans ce pays. Aussi bien du côté de la classe politique que de la société civile nigérienne, des voix s'élèvent pour rejeter l'arrivée de ces forces qui quitteront bientôt le Mali suite à la bruit diplomatique entre les autorités de la transition malienne et la France et certains de ses partenaires européens. Saluant le peuple malien et ses autorités de transition pour la vigilance et le courage avec lequel ils ont fait échec au projet de recolonisation de notre espace sahélien par la France, le parti politique Union des forces populaires pour la démocratie et le progrès a, dans une déclaration publiée vendredi, appelé l'ensemble des forces politiques et sociales à une convergence de lutte pour faire barrage à ce projet de recolonisation à partir du Niger, de l'espace ouest africain. Dans un communiqué publié vendredi 19 février, le mouvement de la société civile Tournons la page Niger a déclaré avoir appris avec sidération et stupéfaction la décision des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union européenne du jeudi 17 février 2022 annonçant le redéploiement des forces Takuba et Barkhane en Niger. Tout en condamnant avec fermeté un accord colonialiste, le mouvement a exhorté les autorités nigériennes à se désolidariser sans condition de cet accord qui n'est pas voulu par le Niger et son peuple. Jeudi, lors d'une conférence de presse à l'issue d'un dîner avec des chefs d'État africains, dont le Nigérien Mohamed Bazoum, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'après le retrait du Mali, les forces Barkhane et Takuba seront redéployées au Niger. Avec l'accord des autorités nigériennes, des éléments européens seront positionnés aux côtés des forces armées nigériennes dans la région frontalière du Mali. Le président nigérien, Mohamed Bazoum, a confirmé la formation, soulignant que notre objectif est que notre frontière avec le Mali soit sécurisée. Les capacités de mobilité terrestre de la Grande Muette se sont davantage renforcées. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, et le Conseil du Café Cacao lui ont fait don de plus d'une trentaine de véhicules pour lui permettre d'accomplir efficacement sa mission de sécurisation des populations et de la défense du territoire national. La cérémonie de remise de ces engins roulants a eu lieu au préau du cabinet du ministère d'État, ministère de la Défense, en présence du premier responsable de ce département, Téné Biarima Ouattara. Draman Koulibaly, le directeur général de la ONACI, a informé que le don de son entreprise se compose de 3 véhicules utilitaires et de 3 ambulances pour un montant de 200 millions de FCFA. Il a de justifier l'action de sa structure par la volonté de celle-ci à apporter sa pierre à la mise en œuvre de la politique du gouvernement visant à garantir la paix en Côte d'Ivoire et la sécurité aux frontières ivoiriennes. Je forme le vœu que ces véhicules contribuent effectivement à une plus grande efficacité des forces déployées sur le terrain dans un contexte marqué par des menaces terroristes récurrentes, a-t-il souhaité. Le Conseil du Café Cacao, le deuxième donateur du jour, a mis à la disposition de l'armée ivoirienne 12 pick-up et à la gendarmerie 8 pick-up et 8 véhicules de transport. Dr Kofi Ngoran, le directeur général adjoint de cette entreprise, a fait savoir que ce geste a pour objet de renforcer l'action de terrain des entités bénéficiaires. Il a aussi déclaré que cette initiative du Conseil du Café Cacao, l'un des poumons de l'économie ivoirienne, consiste à équiper les forces armées afin de les aider à assurer la sécurité des producteurs, victimes fréquemment des coupeurs de route et autres bandits de grand chemin. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Biarima, a salué la ONACI et le Conseil du Café Cacao pour leurs dons. Il a déclaré que ce geste est une action citoyenne salutaire qui permettra aux forces armées de mener à bien les actions opérationnelles et de faire face à la menace terroriste. Les dons que nous venons de recevoir aujourd'hui viennent soutenir les efforts inlassables que le chef de l'État et le gouvernement ne cessent de fournir pour renforcer le potentiel opérationnel de nos forces armées, s'est-il félicité. Le ministre d'État a précisé que ces ajustements du dispositif sécuritaire de leurs partenaires doivent les conduire à plus d'engagement dans la volonté des autorités à préserver le pays des menaces afin de garantir aux populations la tranquillité nécessaire pour leur épanouissement. Il a ensuite réceptionné symboliquement les clés des véhicules offerts aux mains des donateurs pour les remettre au général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, et au général de corps d'armée, Alexandre Apalotouré, commandant supérieur de la gendarmerie. Le milliardaire chinois Pei Shenhua et sa société CATH font partie des entreprises de l'Empire du Milieu qui ont négocié des accords d'investissement dans des projets africains de lithium en 2021. En RDC, la finalisation du partenariat avec l'Australien AVZ était soumise jusqu'ici à des conditions. En RDC, AVZ Minerals est tombé d'accord avec son partenaire chinois, Sojo Cat Energy Technologies, pour accélérer la finalisation de l'investissement de 240 millions de dollars promis par ce dernier en septembre 2021. C'est ce qu'a annoncé la compagnie minière australienne le mercredi 16 février, précisant que l'accord initial devrait être bouclé en mars prochain. Selon les termes de la transaction initiale, les fonds promis par CATH pour le développement de la mine de lithium Manono ne pouvaient être débloqués qu'à la satisfaction de plusieurs conditions à savoir l'octroi du permis minier par l'État congolais, la signature d'une convention minière et une décision d'investissement final positive. Les deux parties ont désormais convenu de se passer de ces préalables afin de lancer effectivement leur coentreprise. CATH devrait donc prendre un intérêt de 24% dans le projet Manono et travailler avec AVZ à la mobilisation du financement restant au lancement des travaux de construction. Selon l'étude de faisabilité d'avril 2020, il faut au total 545,5 millions de dollars pour lancer la production de lithium sur le projet. Pour rappel, les ventes de véhicules électriques ont plus que doublé en 2021, confirmant le boom annoncé depuis tant d'années. Une explosion qui s'accompagne d'une plus forte demande de lithium et de prix en hausse. Des facteurs qui poussent certainement AVZ et son partenaire à accélérer leur plan. Huawei Sénégal a été certifié Top Employer pour la deuxième année consécutive. Le Top Employers Institute a officiellement annoncé la liste du Top Employer 2022 en Afrique où Huawei Sénégal s'est distingué. Chaque année, le Top Employers Institute certifie les entreprises qui s'engagent à fournir le meilleur environnement de travail possible à leurs collaborateurs à travers des pratiques RH innovantes qui privilégient l'humain. Le programme du Top Employers Institute certifie les entreprises ayant participé et obtenu de très bons résultats à l'enquête. Cette enquête couvre 6 grands domaines RH répartis en 20 thématiques telles que la stratégie de gestion des talents, l'environnement de travail, le talent acquisition, la formation et le développement des compétences, le bien-être au travail ou encore la diversité et l'inclusion. Installé au Sénégal depuis 2005, Huawei emploie 75% des ressources locales et met au centre de ses préoccupations la santé et le bien-être de ses collaborateurs. Afin d'assurer une bonne cohésion entre les équipes, l'entreprise accorde une attention toute particulière aux valeurs d'empathie et de considération à travers la diversité culturelle et l'inclusion de ses collaborateurs.